BFM Business. Good evening business. La grande interview, Edwige Chevriot.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où effectivement nous allons parler d'Orange qui a donc publié ses résultats pour le troisième trimestre et qui montre que en tous les cas du côté d'Orange ça va à peu près bien, mais évidemment beaucoup d'interrogations. Bonsoir Ramon Fernandez. Merci d'être avec nous, directeur général délégué en charge des finances d'Orange. Je vous interrogerai sur Orange Bank, sur la cybersécurité, ce qui est une introduction en bourse. On va parler aussi beaucoup de l'Espagne, parce que c'est un point très important dans le rétablissement des comptes d'Orange. Un mot peut-être plus général sur votre progression, légère progression sur le troisième trimestre. Comment vous interprétez cette légère progression? Les marchés ont pas trop apprécié.
Les marchés ont fait à peu près moins 1%, oui. Mais on est la deuxième valeur télécom en Europe qui performe le mieux depuis le début de l'année et on surperforme les autres opérateurs de 20 points. Donc ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a été en capacité ce matin de confirmer nos engagements pour 2022 et pour 2023 dans un environnement où vous avez des opérateurs qui commencent à dire on n'est pas tout à fait sûr d'y arriver. Donc ça montre la résilience, je dirais, et la force d'un groupe qui a des activités diverses et qui est présent sur plusieurs continents. Donc c'est la force d'Orange que d'arriver à dégager cette croissance de 1% du chiffre d'affaires, une légère croissance des marges, dans un environnement dont tout le monde sait qu'il est extraordinairement compliqué avec l'inflation, des tensions géopolitiques dans le monde. Donc c'est, je dirais, un bon cru, une bonne résilience et la confirmation de nos objectifs, alors que cet environnement est objectivement assez compliqué.
Là, vous étiez absolument, vous avez sorti des chiffres qui étaient absolument conformes à ce que prévoyait le marché, presque à la virgule près, presque, oui, on peut dire ça presque. Sur l'année, les perspectives 2022, là aussi, vous confirmez tout, y compris les EBITDA, vous confirmez tous vos objectifs?
Oui, on confirme nos objectifs pour l'année. On a un objectif principal chez Orange, qui est le cash qu'on dégage à la fin de l'année. Et on a confirmé cet objectif, au moins 2,9 milliards, au moins 3,5 milliards l'année prochaine. Ce qui va supposer qu'on fasse un quatrième trimestre qui soit un bon trimestre. Mais encore une fois, on a une très belle dynamique en Afrique, une très belle dynamique en Europe. Et vous parliez de l'Espagne. L'Espagne a retrouvé de la croissance. Oui. Pour la première fois quand même depuis le premier trimestre 2019. Donc le travail des équipes donne des résultats. Et puis d'autres activités qui, en France, on a toujours une légère décroissance, mais sont très très fortes, très belles performances commerciales. Donc oui, on confirme nos objectifs.
J'ai quand même une question, parce que évidemment vous êtes dedans, mais quels sont les éléments conjoncturels qui sont pour vous, qui pèsent sur vos métiers? Ça veut dire on a tous besoin de téléphoner, guerre ou pas, ou ceux qui sont au milieu de la guerre, ils téléphonent énormément. Bref, quels sont, vous dites, un environnement qui est compliqué pour nous? En quoi finalement est-il compliqué pour les télécoms?
Alors, ce qui est vrai, c'est que les services des opérateurs de télécoms sont plus important que jamais. Je crois que depuis la pandémie, le télétravail, on savait déjà à quel point le smartphone était vital et une qualité de haut débit à la maison comme au bureau était vitale. Donc tous les investissements qu'on a fait dans la fibre depuis des années, on a investi des sommes gigantesques, 13 milliards en 10 ans dans la fibre en Europe. On est le numéro 1 et de très très loin. Et donc ces investissements nous permettent aujourd'hui d'avoir 280 millions de clients dans le monde et d'avoir une place de numéro 1 en Europe très solide. Donc le service télécom, il est vital et notre engagement, c'est d'être auprès de nos clients pour donner des services dont ils ont besoin.
Qu'est-ce qui pèse sur vous?
Alors ce qui pèse sur nous, c'est l'inflation, la hausse des coûts d'énergie.
En quoi l'inflation, ça pèse sur vous?
Par exemple, les coûts d'énergie ne représentent que à peu près 2% de nos coûts. Mais enfin, si vous comparez ce que nous dépensions en électricité, puisque c'est ça qui bouge le plus, entre 2021 et ce qu'on dépensera en 2023, il y a plusieurs centaines de millions d'euros de dépenses supplémentaires.
Vous pouvez être plus précis, peut-être Ramon Fernandez?
De l'ordre de 400 millions de plus en deux ans.
D'accord.
Oui. Donc, ce n'est pas une paille. L'inflation a d'autres effets, bien sûr. On accompagne nos fournisseurs, on accompagne nos sous-traitants, on essaye aussi de tenir compte des difficultés des uns des autres. On a évidemment une politique salariale qui doit aussi tenir compte de cet environnement dans nos différents pays. Donc, Voilà, nous sommes dans des contextes où l'inflation, la hausse des coûts de l'énergie a évidemment un impact, et donc notre effort collectif, c'est d'arriver à absorber tout ce qu'on peut absorber dans les coûts que nous subissons.
Est-ce que vous êtes en train de renégocier des contrats justement d'électricité avec vos fournisseurs ?
L'une de nos forces, et qui explique pourquoi, contrairement à d'autres, on arrive à tenir nos objectifs cette année, c'est qu'on avait pris des couvertures sur les coûts d'électricité avant la crise et qu'on a continué à développer. Et donc, nous sommes aujourd'hui 100% couverts sur 2022 et à plus de 90% couverts en 2023 et plus d'un tiers sur 2024, ce qui nous positionne très bien par rapport aux autres grands opérateurs. Et donc, on sait combien on va dépenser de plus. La somme que je vous ai donnée est importante.
Est importante, mais elle n'est pas gigantesque par rapport à d'autres chefs d'entreprise qu'on reçoit ici.
Par rapport à d'autres dont les coûts d'énergie représentent 40% du chiffre d'affaires, ouais. Moi, je vous disais que c'est plutôt de l'ordre de 2%. Donc, bien sûr, c'est un impact, mais c'est gérable, disons. Mais ça suppose quand même des efforts importants.
Le point important, qui est peut-être celui qui est l'inflexion, en tous les cas par rapport à l'affichage que vous présentez, c'est l'Espagne. L'Espagne qui, vous l'avez rappelé, redresse la barre, oui. Et qui était pour la première fois depuis 2019, est positif. Il y a eu un gros travail qui a été mené depuis 2 ans pour recentrer, élaguer. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? C'est-à-dire que pour vous, l'Espagne, ça y est, la restructuration est faite au niveau espagnol, sachant qu'il y a une énorme opération qui est très importante, oui. Pour vous avec MassMobile.
Le groupe est présent en Espagne depuis de nombreuses années. Oui. On a eu une période extraordinairement favorable entre 2015-2018. On a acheté un opérateur, on a fait beaucoup de croissance. Et puis après, le marché espagnol s'est retourné, pour toutes sortes de raisons. Donc on a eu depuis 2018 des années difficiles. Et depuis 18 mois, nous avons engagé un plan de redressement, oui. En Espagne qui, comme vous le disiez, donne des résultats. Nous sommes à plus 0,2% de croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre.
Voilà, mais le plus est très important.
Mais le plus est très important
cas,
parce qu'on était, parce qu'on était sur du moins 6, moins 8. Oui. Et donc, on aura réussi cette année 2022 à stabiliser la contribution et même augmenter l'apport en cash d'Orange Espagne. L'EBITDAL, lui, prendra sa croissance en 2023 dans le contexte où on a annoncé une très grande opération de rapprochement avec le numéro 4 du marché. Nous sommes le numéro 2. C'est une des plus grandes opérations du secteur télécom des 10 dernières années. 20 milliards d'euros quand même de valeur conjointe pour les deux actifs. Avec MassMobile, donc, on a saisi la Commission européenne, les autorités de la concurrence de ce projet fin septembre. Et notre objectif est d'aboutir au deuxième semestre 2023. Mais c'est vraiment une opération très importante. Deuxième semestre, oui. Mais que nous pouvons faire parce que nous avons redressé la situation.
Presque un an d'attente, il peut se passer beaucoup de choses, surtout dans le contexte actuel, comme vous l'avez souligné.
Ce sont les délais d'instruction des autorités de la concurrence. Je reconnais que c'est un peu long. C'est un peu long, mais il faut en passer par là, si j'ose dire. Et nous sommes tout à fait confiants sur le fait, et c'est ça le plus important, que nous arriverons au bout de cette opération, parce que nous sommes très complémentaires. Et additionner Orange et MassMobile en Espagne ne réduira pas la concurrence.
Lorsqu'on regarde la décision qui a été prise autour de la fusion entre 0-2-3, j'ai peur de dire une bêtise, ça peut-être vous inquiéter, non ?
Alors, ce n'est pas encore une décision, ce sont les recommandations de l'avocate générale
de la Cour de justice de l'Union européenne.
Voilà. Absolument, qui a rendu des conclusions et on attend une décision de la Cour de justice début 2023. Mais encore une fois, et l'avocate générale le dit bien, il faut regarder chaque opération sur ses mérites propres. Et notre opération en Espagne, comme d'ailleurs une autre opération que nous sommes en train de finaliser en Belgique, doit être regardée sur ses mérites propres. Et nous sommes tout à fait convaincus qu'elle passera le test des autorités de la concurrence.
Bien, juste, vous avez vu, j'imagine que ça ne vous a pas échappé, Xavier Niel monté dans Vodafone. Et Vodafone, c'est le premier concurrent de Orange en Espagne. Ça y est, l'affrontement entre Free et Orange sur le territoire français se retrouve en Espagne.
Mais pas seulement. D'abord, il n'est pas encore en Espagne, Xavier Niel, mais il est en Pologne, il est au Sénégal.
Oui, mais Vodafone.
Donc on a l'habitude de d'être en compétition et ça se passe très bien.
Oui, ça se passe très bien, on va y revenir. Alors, il y a quasiment un an, donc, vous avez hérité d'une nouvelle directrice générale, Christelle Edman, qui est arrivée le 22 avril de 2022 et elle va présenter son plan stratégique, si ma mémoire est le 13 février ou le 16 février.
Absolument.
2023.
Oui.
Ça fait presque un an qu'elle est là, qu'elle est en poste. Un an pour délivrer un plan stratégique, j'ai envie de dire... Pourquoi c'est si long, c'est si compliqué de, je veux dire, de, il faut redéfinir complètement une nouvelle stratégie de Orange.
Alors ça fait 6 mois, hein, avril, octobre.
Bah, février.
Non, alors après,
donc, février.
Non, je parle. Oui, alors quand on réfléchit,
c'est délivré le 16 février.
Quand on réfléchit,
2023, elle a été nommée le 22 avril. Je vous accorde, ça fait 10 mois. D'accord.
Quand on réfléchit à l'avenir d'un groupe de l'importance d'Orange, qui est le 12e opérateur de télécom dans le monde, qui dégage plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie 150 000 personnes dans le monde, qui a 280 millions de clients, je pense que ça mérite d'y passer quelques mois. Et le choix qu'a fait Christelle Edman, c'est d'associer les équipes à la réflexion sur ses perspectives stratégiques. Et donc, je pense que le 16 février est une date qui est tout à fait bonne pour présenter une vision qui sera une vision de long terme assortie de trajectoires financières à moyen terme. Donc, je pense que prendre le temps de la réflexion...
Qui sera une vision qui sera très différente de celle qui a été conduite jusqu'à présent. C'est normal, l'univers change, le monde change, la technologie change.
Bien sûr, tout change. Et en même temps, il y a des fondamentaux qui, eux, ne changent pas. Et Christelle Edman a toujours dit que, parce qu'elle participait au conseil d'administration d'Orange, elle était associée et elle endossait quelques choix très fondamentaux qui font notre force aujourd'hui. Je redis, l'investissement dans les réseaux, numéro un de la fibre en Europe, numéro un de la convergence en Europe, c'est-à-dire mettre ensemble le fixe et le mobile. Pour les clients comme vous et moi, on n'a pas envie forcément de taper à 3 portes différentes pour avoir un service tout compris. C'est la grande force d'Orange. Le choix de l'Afrique, être aujourd'hui
ça
un
y est,
des
il a été
premiers...
fait le choix de l'Afrique.
Ah, mais il a été
il
fait, mais l'histoire ne s'arrête pas.
Oui.
L'histoire ne s'arrête pas. Nous allons continuer à faire de la croissance en Afrique. Nous allons continuer à saisir de nouvelles opportunités. Les infrastructures, nous avons aujourd'hui, et nous sommes l'un des tout derniers, si ce n'est le dernier grand opérateur en Europe, à conserver le contrôle de nos opérations mobiles, de nos pylônes que vous voyez quand vous vous promenez ici ou là, et des toits-terrasses. C'est fondamental.
Il y a une financiarisation, là, oui.
Mais c'est un actif fondamental. Nous le contrôlons aujourd'hui. On a la cyber, Orange Cyberdéfense.
Oh, on va en parler parce que là, c'est un point très important.
Aujourd'hui un des leaders européens. Donc vous voyez, on a énormément d'actifs qui ont été lancés, qui sont là, qu'on va faire fructifier.
Vous avez investi, vous avez rappelé le chiffre tout à l'heure, 13 milliards d'euros dans la fibre.
Oui.
Vous allez investir encore combien dans les 2 prochaines années dans la fibre ou dans les 5 prochaines années pour continuer à fibrer l'ensemble du territoire européen?
On est très avancé. On a couvert aujourd'hui plus de 90% de nos engagements en France, en Pologne, en Espagne, qui sont les principaux pays. Et on va continuer à le faire. Et on peut aussi le faire via des structures dédiées que nous mettons en place, ce qu'on appelle des FiberCo. On en a une pour couvrir la zone rurale en France. On a fait la même chose en Pologne. Et donc, il y a encore de l'investissement devant nous dans la fibre. Mais par rapport à tous ceux qui commencent maintenant, pour nous, l'essentiel est derrière. Donc, par rapport à ces 13 milliards, c'est beaucoup, beaucoup moins.
Oui, c'est quoi ? C'est 5 milliards ?
C'est quelques milliards.
C'est quelques milliards. Alors, vous l'avez dit, donc, c'est une stratégie qui va rester télécom pure ou qui va se concentrer sur les télécoms ou il y aura aussi peut-être d'autres diversifications ?
D'abord, les télécoms, c'est un univers immense.
Oui.
On n'a pas parlé du marché entreprise. Mais le marché entreprise est aussi un marché sur lequel il y a des opportunités.
Il y a une concurrence presque encore plus féroce, oui.
Oui, il y a beaucoup de concurrence, mais aussi un champ d'activité pour le service de nos clients entreprises qui est immense, avec le cloud, avec la data. On parlera donc peut-être de la cyber, où on est sur une position extrêmement forte. Donc, on va explorer tous ces champs.
Justement, sur la cybersécurité, on voit bien que un plan va être présenté là par le nouveau ministre délégué en charge du numérique, qui était notre invité la semaine dernière, Jean-Noël Barrot. Une question. D'abord, est-ce que votre filiale actuelle, est-ce que vous allez l'introduire en bourse ou pas? Il y a beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup d'interrogations là-dessus, c'est oui ou c'est non?
Oh, il y a toujours des rumeurs. Je rappelle juste, Orange Cyberdéfense, c'est une entité aujourd'hui qui a 2600 experts en cybersécurité, qui fait 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sur une croissance ce trimestre de 13%, mais c'est toujours entre, disons, 15-20%, qui traite chaque jour 60 milliards d'actes pour vérifier s'il y a des malveillances ou pas, et qui est
60
milliards par jour d'actes qui sont analysés par les équipes d'Orange Cyberdéfense, qui est un des quatre leaders européens et qui a vocation et dont nous avons l'ambition de faire le numéro un dans les prochaines années. Nous avons créé cette entité comme filiale cette année, en 2022, au printemps, en disant que cette filiale, cette structure juridique nous permettrait de saisir toutes sortes d'opportunités, que ce soit via des partenaires stratégiques, des partenaires financiers, comme on l'a fait pour la filiale Orange donc, Africa Middle East qu'on a mise en place en 2015.
Et donc pour se donner les moyens justement de ces acquisitions, de servir de pôle fédérateur autour de la cyberdéfense ou de la cybersécurité, ma question elle reste là. Une introduction en bourse, est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'elle est envisageable? Est-ce qu'elle répondrait justement au financement de ces acquisitions?
Elle est possible, mais elle n'est pas nécessaire. Mais elle est possible. Encore une fois, c'est une structure qui saisira des opportunités, qui a des experts qui sont vraiment au top niveau et qui a vocation à être un des consolidateurs de la cybersécurité, encore une fois en partant d'une position aujourd'hui qui est très forte et qu'on a construite avec nos forces internes et à coup d'acquisition au cours de ces dernières années.
Il ne vous a pas échappé qu'il y a une grande question autour d'Atos, et notamment une pépite qui est la filiale, la division cybersécurité et cyberdéfense d'Atos. Atos est dans une situation très difficile. On sait qu'il y a Thales, Patrick McKen qui est en embuscade. Il y a aussi Airbus. Et puis, on dit qu'il y a aussi vous. Est-ce que vous... Parce que l'État est actionnaire de chez vous. On sait que l'État est très vigilant. Évidemment, sur l'avenir de toutes ces sociétés, est-ce que vous pourriez être le pôle consolidateur avec notamment la division d'Atos?
Comme je l'ai dit, Orange est présent. Orange est un des très grands acteurs de la cyber en Europe et donc Orange examinera toutes les opportunités.
Est-ce que vous avez regardé le dossier?
Tout le monde sait qu'Orange regarde les dossiers intéressants quand ils se présentent.
Et là, c'est un dossier intéressant?
C'est forcément un dossier intéressant.
Donc vous l'avez forcément regardé?
Je vous ai répondu.
Voilà, oui. Non, mais vous avez, plutôt que d'affabuler, c'est bien d'avoir des réponses précises, surtout sur des dossiers aussi délicats. Autre dossier délicat, Orange Bank. Vous êtes président d'Orange Bank?
Oui, du conseil d'administration.
Du conseil d'administration, bien sûr. Il y a eu un changement d'homme. Et puis, on sait que vous avez mandaté la Banque Lazare pour discuter, on va dire, de partenariat, de cession d'Orange Bank.
On sait... Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, quand vous consultez votre banquier, vous le faites à plus de 90% via votre smartphone. Ouais. Donc, l'idée de départ, qui était que l'accès à la banque se fasse par le smartphone, que nous connaissons quand même assez bien, est une très bonne idée. Et d'ailleurs, en 5 ans, parce qu'on a fêté les 5 ans de l'anniversaire de la banque il y a 10 jours, on a atteint... presque 2 millions de clients entre la France et l'Espagne.
Et le montant total investi par Orange dans la création et dans le soutien de cette filiale d'Orange Bank, c'est combien?
J'aime bien le mot que vous utilisez, Edwige Chevrillon, c'est un investissement.
Oui,
mais donc à ce stade, nous avons capitalisé la banque à peu près 850 millions d'euros. Une partie de ces fonds propres servent à couvrir les crédits octroyés par la banque et l'autre à éponger, compenser les pertes qui, cumulées depuis l'origine, s'établissent à un peu moins de 500 millions d'euros. Mais comme vous le dites, c'est un investissement. Toutes les banques digitales aujourd'hui, et Orange Bank est la banque digitale qui bénéficie des meilleures notations sur toute une série d'indicateurs, sont en perte, y compris... les plus importantes d'entre elles.
Et donc là, c'est quoi l'avenir d'Orange Bank? Est-ce que l'avenir d'Orange Bank s'inscrit, enfin visiblement non, mais après ça peut être des partenariats, s'inscrit dans le périmètre d'Orange?
On verra.
La Banque Lazare a été mandatée.
Mais
vous pouvez confirmer ou pas?
On verra comme pour l'ensemble des activités du groupe, vous le disiez vous-même, nous sommes dans un monde qui évolue et donc nous procédons, et Christelle Edman a souhaité qu'on procède, et elle a bien raison, à un examen systématique de l'ensemble de nos activités Et vous savez, les banquiers d'affaires, dans ma fonction de directeur financier d'Orange, j'en vois à peu près tous les jours, qui travaillent sur beaucoup de sujets.
Mais est-ce que vous avez mandaté une banque ?
Notre objectif, c'est de regarder les conditions qui permettront à Orange Bank d'accélérer et qui permettront de faire fructifier ce qui a été construit. Et donc, on regardera, bien sûr, toutes les options. Il y a un nouveau directeur général d'Orange Bank, Stéphane Vallois, qui était le directeur général délégué, qui est un très grand professionnel de la banque. On a un plan de marche, on a un objectif, et donc les équipes sont mobilisées pour ça.
Ouais, est-ce que j'aurai une réponse sur le fait que vous ayez mandaté, parce que le terme est assez précis, une banque ?
Je vais vous redire que nous examinons beaucoup de sujets avec beaucoup de banquiers. Et moi, j'ai pas l'habitude de commenter les mandats donnés aux uns et aux autres. On le fait
quand on a terminé
une opération.
On voit bien quand même que, comme vous dites, tous les actifs sont passés au crible dans le cadre de cette revue stratégique qui est conduite par Christel Edman et par vous. Sur les boutiques Orange, le réseau Orange, vous le diminuez de manière considérable parce que là aussi, on est plutôt sur son application Orange, plutôt peut-être que d'aller dans une boutique. Et vous aviez 500 boutiques, aujourd'hui vous avez la moitié, c'est ça ?
Non.
Non ?
J'ai vu aussi des choses
des chiffres, c'est
sur
pour
le
ça,
sujet.
Je vous pose la question.
Mais je vous remercie, parce que ça permet quand même de replacer les choses dans leur réalité, si j'ose dire. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une évolution des usages, que la pandémie a accéléré, donc les canaux de distribution ont beaucoup changé, et les lieux aussi de distribution ont changé avec les habitudes de vie de nos clients. Notamment, ceux-ci vivent davantage aujourd'hui dans des villes moyennes ou des zones rurales qu'avant la pandémie. Ce qui fait que nous avons besoin de plus de boutiques, dans ces zones-là. Et donc, aujourd'hui, nous avons 500 boutiques et le projet n'est pas de fermer des boutiques. Le projet, au contraire, d'ici 2026, c'est d'en avoir ouvert une centaine et donc de passer de 500 à 600 sur les 4 prochaines années. C'est ça le projet.
Non, c'est plutôt de développer votre réseau.
C'est de développer en adaptant le réseau.
Il y a une dernière question. On a parlé tout à l'heure de l'inflation. On voit la question de pouvoir d'achat pour les Français. Est-ce que vous mesurez, vous, déjà l'impact en termes de vente de smartphones ? On dit beaucoup que la vente de smartphones est en baisse. Est-ce que chez Orange, c'est le cas ? Est-ce que les abonnements sont aussi en baisse ou du moins sont souscrits à des prix les plus bas possibles ? Est-ce que l'impact du pouvoir d'achat, vous le ressentez chez Orange ?
Alors, pas encore. Et quand vous regardez les chiffres du troisième trimestre, l'une des hausses les plus importantes de chiffre d'affaires sont précisément sur les équipements, qui sont en croissance en réalité très important, mais avec un mix qui est intéressant. Il y a moins de volume, mais plus de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nos clients achètent moins de smartphones, mais ils achètent des smartphones qui sont plus haut de gamme. Nous, notre engagement, c'est d'offrir à l'ensemble de nos clients toute la gamme qu'ils peuvent souhaiter et aussi d'aller vers le recyclé, la deuxième main, les smartphones d'occasion et ce qu'on appelle l'économie circulaire. On n'en a pas parlé ce soir, mais c'est aussi un des engagements importants d'Orange, tout ce qui tourne autour de la RSE, c'est d'aller vers le circulaire, le recyclage. Et ça boucle assez bien d'ailleurs avec les objectifs de sobriété dont on parle dans ces moments de crise énergétique.
Au jour d'aujourd'hui, vous vendez combien de téléphones recyclés ? Vous avez le chiffre ?
Je n'ai pas le chiffre exact et c'est en croissance, mais il y a un marché qui est fantastique. Et donc, quand vous allez dans une boutique Orange aujourd'hui, vous avez un coin re où vous pouvez acheter des smartphones d'occasion et des smartphones recyclés. Et c'est très important.
Et puisque vous parlez de si vous voulez réécouter, revoir, évidemment, cette interview, vous pouvez le retrouver sur le podcast du site de BFM Business. Il y a même un QR code qui s'affiche. On se retrouve sinon demain. Merci beaucoup, Ramon Fernandez, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes directeur délégué en charge des finances du groupe Orange. Et tout de suite, ça tombe bien, Tech & Co avec François Sorel.
Good evening business. La grande interview.